Transition écologique, énergie solaire, agriculture, vie de nos territoires. Terra Arbouts, une aventure paysanne, c'est tout de suite sur MDM. Une nouvelle aventure qui débute aujourd'hui sur Radio MDM, un magazine voyage au long cours qui va nous faire plonger tout au long des mois à venir au cœur du projet Terra Arbouts. On va parler agriculture, transition écologique, invention de nouvelles activités, énergie solaire, production d'énergie photovoltaïque avec une grande partie des acteurs de ce projet. Bienvenue Jean-Marc Fabius, et si le tu nous échappe, c'est qu'il illustrera l'authenticité de notre rencontre autour de l'équipe de Basketland, un amour partagé. Jean-Marc Fabius, fondateur de la start-up Green Lighthouse Development, j'ai mis l'accent, mais trêve d'anglicisme, revenons à la source avec, il y a 2 ans, la création de l'association PATAV.
Eh oui, bonjour Jeannot, un très bel acronyme que PATAV qui signifie Peugeot Arbouts, territoire agrivoltaïque. Alors on va pouvoir dans ce magazine discuter un petit peu de ce projet pour le décrire succinctement. Ce projet est un projet qui est un projet agricole, avant toute chose, qui est issu du territoire et donc 2 zones de captage des eaux, qui sont Peugeot et Arbouts, donc un peu à l'est de Mont-de-Marsan, sur 6 communes, 2 communautés de communes. Et il est issu d'une problématique de la qualité de l'eau, où certains intrants sont arrivés jusqu'aux nappes phréatiques et donc sont aujourd'hui présent dans les nappes et donc dans l'eau sans filtre, si elle n'était pas nettoyée, pour l'eau de la consommation courante. Donc, les agriculteurs de cette zone-là se voient sous contrainte, une contrainte d'arrêter tout intrant dans les prochaines années, dans un territoire qui ne permet pas vraiment d'avoir une agriculture facile, simple, beaucoup de terres hydromorphes, et donc une difficulté fondamentale à avoir une activité agricole pérenne, responsable en même temps, et surtout rentable et qui permette d'avoir une continuité d'activité de ce territoire-là.
Alors quand tu parles d'intrants, juste pour le profane?
Alors pour le profane, les intrants, c'est tout ce que l'on va mettre dans le sol, sur la plante. Donc ça peut être des engrais, mais également qui va lutter contre les mauvaises herbes, certains insectes ou certaines maladies des plantes.
Alors ce regroupement, cette association créée par ces agriculteurs, éleveurs, pour faire face à ce problème, elles ont initié une recherche et imaginé une suite pour pérenniser leur fonction et l'activité agricole.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, donc la contrainte, elle vient, pour resituer un petit peu, elle vient donc dans cette obligation de ne pas mettre d'intrants, comme on l'a décrit. Ça vient aussi sur une surface. C'est-à-dire que ces eaux qui sont collectées, enfin qui sont ramenées dans les nappes phréatiques, ça représente une surface de 1400 hectares de surface agricole utile, donc des terrains qui sont à ce jour cultivés. Ces 1400 hectares, voilà, ça représente à peu près 35 exploitations agricoles. Ils se sont regroupés dans une association, donc PATAV, Peugeot Arbouts Territoire Agrivoltaïque, et ils ont cherché à trouver comment, de cette contrainte, faire une opportunité, s'ouvrir de nouveaux marchés, changer leurs pratiques agricoles, faire du circuit court, enfin, ça a phosphoré dans ce monde agricole qui, contrairement à ce que certains pensent, est extrêmement dynamique et extrêmement innovant. Et ils ont imaginé une solution qui était de dire, et si on alliait un petit peu agriculture et photovoltaïque? Et c'est dans ce cadre-là que cette association PATAV est venue nous chercher, nous comme tant d'autres d'ailleurs, et à la suite d'une procédure concurrentielle, nous avons été retenus, je crois, sur les valeurs que nous portions, sur notre capacité à nous intégrer dans un territoire bien au-delà du projet aussi, et notre capacité à comprendre ce qu'était le monde agricole, qui est un monde un peu particulier.
GLHD, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu?
Ah oui, je peux. GLHD est une société qui a aujourd'hui 3 ans. Le siège social est situé à Martillac, en banlieue de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Nous avons maintenant des bureaux ici même aussi, et ce qui est notre implication dans le territoire, sur le site d'Agroland à Omoko, très beau site d'ailleurs dans lequel on s'y plaît beaucoup. Notre société est spécialisée dans le développement de très grandes centrales photovoltaïques, en combinant justement dans ces centrales une agriculture biologique ou raisonnée afin de faire au même endroit une révolution verte dans la production d'énergie et une révolution agricole et sortir du modèle qui a été celui des années 60-70.
L'idée de naissance, parce qu'on a dit que tu étais fondateur, donc comment c'est né et par où c'est passé?
Alors je rendrai hommage à mon co-fondateur, qui est David Portales, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais comment ça s'est passé? Ben, ça vient d'une antériorité, on a travaillé ensemble à l'export préalablement, et puis notre vie dans les énergies renouvelables a démarré aux alentours de 2003-2005. À l'étranger, le solaire est une énergie totalement compétitive et en compétition avec les autres énergies que sont le gaz, le charbon, le pétrole, le nucléaire, pour produire du kilowattheure et de qualité et pas cher. Donc on a ramené ce principe-là, et plutôt que d'aller chercher des appels d'offres comme il y a en France, on s'est dit, ben non, nous on va produire du kilowattheure pas cher, vert, disponible pour tous, et on va le vendre directement sur le marché, soit à des industriels qui eux sont dans le process du changement de pratique et qui vont consommer de l'énergie verte, soit à d'autres énergéticiens qui revendront à leurs clients après.
J'imagine qu'il doit y avoir une grande diversité de métiers chez GLAG.
Une très grande diversité. On a, au-delà des fonctions support, nos chefs de projet qui ont des spécialisations très variées dans l'environnement, dans la biodiversité, dans la faune, dans la flore. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus orientés droit des administrations, d'autres financements, d'autres construction, exploitation, maintenance. Oui, c'est une grande richesse parce que ça nous oblige à travailler en groupe, ensemble, à partager de l'information et de la donnée, et on est aujourd'hui une société qui est en pleine croissance, on se porte très bien malgré le contexte actuel, mais je crois que c'est lié aussi à la prise en compte de cette double nécessité et obligation qui est la transition énergétique et la transition agricole.
Comment ça marche, Jean-Marc, concrètement?
Très bien, Jeannot. Ouais. Ça marche très bien. Le principe de l'agrivoltaïsme, il est en fait extrêmement simple. C'est que, je sais pas si tout le monde a déjà vu une centrale solaire au sol, on a des panneaux qui sont assez resserrés, et donc le principe, c'est qu'un photon vient frapper le panneau et est converti globalement en électrons et ensuite acheminé sur le réseau. Là, le principe de cette conversion reste le même, mais nous allons écarter les panneaux pour permettre aux machines agricoles de passer au milieu, et nous allons avoir également dans certains cas des panneaux mobiles montés sur des structures que l'on appelle des suiveurs solaires, en anglais trackers, et qui vont suivre la course du soleil pendant la journée et qui donc vont s'orienter d'est en ouest et vont donc déplacer de l'ombre. Alors c'est des technologies qui sont très intéressantes parce que il n'y a aucune artificialisation des sols là-dedans. La capacité à produire de l'agriculture se fait partout parce que justement l'ensoleillement peut accéder à n'importe quel endroit du site. Et comme on permet aux tracteurs et aux outils agricoles de passer vraiment partout, ben ça nous permet une pleine exploitation. En fait.
On aura l'occasion tout à l'heure d'évoquer la phase de concertation qui a accompagné ce projet jusque-là et les nouvelles activités aussi au niveau agricole pur et dur, les nouvelles mêmes cultures qui pourront en dérouler. Si on poursuit le cheminement à partir de ce petit photon qui claque sur le panneau, qu'est-ce qui se passe après? Comment est acheminée l'électricité?
Alors, il faut savoir que le panneau produit en courant continu. Celui-là est ensuite élevé en tension pour accéder au réseau. Alors, le réseau, quand on produit de l'énergie, c'est pas le réseau qui est juste à côté, celui qui nous amène de l'électricité dans nos maisons. C'est plus du réseau avec des très gros tuyaux. Et donc nous, comme on fait des très grandes centrales, on va se raccorder sur le réseau de RTE, le réseau transport d'électricité, qui est une filiale à 100% d'EDF. Et c'est globalement les autoroutes de l'énergie. Voilà, c'est du très très gros tuyau. Et nous, on va injecter notre énergie dans ce très gros tuyau.
Et si on le géolocalise dans ce projet TerraRoots?
Alors, dans ce projet TerraRoots, on a déjà réservé notre accès au réseau. Le raccordement sur cette autoroute de l'énergie va se situer à Sainte-Croix-du-Mont sur un poste source, donc une espèce de giga multiprise sur lequel on vient se raccorder, et ce poste source s'appelle Naotot.
Et la suite, ça part où tout ça?
Oh ben généralement, l'électricité, c'est comme beaucoup de choses, c'est assez feignant, donc ça va être distribué typiquement dans la zone, et donc on peut dire qu'une immense partie, si c'est pas toute la production, sera consommée localement.
Si on revient du côté d'Agroland, où donc vous êtes, depuis votre arrivée dans les Landes, il y a un pilote qui sera visible pour matérialiser tout ça.
Oui, c'est un pilote qui sera visible. Il a beaucoup, beaucoup de fonctions, ce pilote. La première de ses fonctions, c'est de valider la preuve du concept et donc de tester différentes cultures et différents moyens mécaniques de cultiver cela entre les suiveurs solaires que l'on va implanter à différents écartements, à différentes hauteurs, pour monitorer le suivi solaire, mais également pour monitorer l'insolation au sol, comment les plantes le reçoivent, à quel moment il faut positionner des ombres, comment on peut changer ses poursuites solaires pour justement optimiser la production agricole. Il y a un autre point qui est stratégique dans ce pilote, c'est que c'est une source d'innovation. C'est une source d'innovation dans notamment l'irrigation, où on pense à des systèmes qui seraient accrochés aux structures et qui permettraient d'économiser de l'eau. On en revient toujours à cette problématique de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, c'est la qualité, demain, ça sera la quantité, donc autant anticiper tout de suite ces problématiques-là. Et puis, on va essayer de la robotisation également, on va essayer de la digitalisation. Aujourd'hui, l'agriculture court à une vitesse incroyable vers la digitalisation et l'informatisation, donc sont des points que l'on va tester dans ce pilote-là, qui, au-delà même des simples cultures, que l'on va tester en nombre. Il y aura sur le programme sur 3 ans, je pense qu'on va dépasser les 15 différentes sortes de productions, avec un comité de recherche, avec un comité de suivi et d'innovation, tout ça pour voilà, amener de la dynamique et s'en servir de laboratoire pour porter toutes ces technologies sur le grand projet porté par PATAF.
Jusque-là, je pense qu'on a bien suivi les explications autour de ce projet Terre Arbout. Sur Radio MDM, la musique est reine, Jean-Marc, Fabius, avec une proposition musicale qui va nous permettre de nous aérer un petit peu.
Merci de m'avoir proposé de choisir ça. Donc, je suis allé chercher un morceau qui est très signifiant pour moi, qui s'appelle Jean-Pierre de Miles Davis, qui est en fait une véritable transition entre le jazz un peu classique et le jazz qui va devenir le bebop et bien au-delà. Donc il y a de super musiciens sur ce morceau. Voilà, il y a Herbie Hancock notamment, il y a Marcus Miller à la basse, et puis il y a Miles.
Miles Davis dans la bande originale de l'épisode 1 de notre nouvelle série magazine Terre Arbouts, un projet paysan avec Jean-Marc Fabius, fondateur de GLHD, au cœur de ce projet d'agri-voltaïque.
Oui, d'ailleurs, Jeannot, il faut qu'on précise quand même, Terre Arbouts, c'est le nom du projet, PATAF. C'est le nom de l'association qui le porte et GLHD, c'est le partenaire de PATAF sur ce projet Terre Arbouts.
J'en étais tellement imprégné que j'en oubliais les bases, mon cher Jean-Marc. La concertation, Jean-Marc, qui vous a occupé ces derniers mois, toujours en cours et qui va bientôt arriver au bout.
La concertation, c'est le point essentiel. Alors, je vais parler un petit peu de mon métier là, mais vous allez voir à quel point ça rentre dans la réalité d'un projet. Notre métier, c'est quand on est mandaté comme aujourd'hui par des agriculteurs, c'est commencer à discuter tout d'abord avec les représentants de la population, donc avec les élus, et on commence par les conseils municipaux, les conseils communautaires, donc également les maires, les présidents de communautés de communes, les élus du conseil départemental, parce que c'est leur territoire. Et il faut déjà qu'il y ait une adhésion des élus à ce projet de Terre Arbouts. Nous avons eu des délibérations des conseils municipaux et des conseils communautaires qui sont toutes favorables à l'unanimité hein, sur nos projets, ce qui est assez fantastique d'ailleurs, ce qui montre bien que les élus avaient pris conscience de ce qu'est la déprise agricole, la potentielle déprise agricole, mais ça on y reviendra j'espère un petit peu après. Pour la concertation, c'est la phase d'après. C'est-à-dire qu'on a fait de notre côté tous les relevés faune et flore sur 1400 hectares, donc c'est immense comme recensement, hein. Et on va consulter la population en disant voilà, on a l'intention de faire un projet d'agrivoltaïsme sur une partie de ces 1400 hectares. Cette partie-là, elle va avoir une implication, c'est qu'elle va modifier un petit peu le paysage, un petit peu les usages de l'agriculture, un petit peu des voies de communication, enfin des sentiers ou des choses comme ça. Ça peut impacter les chasseurs. Et donc, on rencontre tout le monde. Quand je dis qu'on rencontre tout le monde, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire une grande réunion de lancement sur le site d'Agroland. Il y avait plus d'une centaine de personnes entre virtuel et présentiel, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires en vigueur. Et puis nous avons ensuite fait 5 ateliers et nous rencontrons, comme je le disais, absolument tout le monde. Nous avons fait un atelier pour les chasseurs et avec eux nous avons défini les zones de passage des gibiers, quelles sont les implications de ces nouveaux principes dans ce territoire-là. Est-ce que ça va gêner à la chasse des palombes? Comment on peut prévenir et non pas guérir de toute problématique qui se présentait? Et puis on est allé encore plus loin, on a fait du porte-à-porte, on a fait des ateliers dans les mairies pour informer tout le monde du détail réel du projet. Et puis, à ce jour, on n'a pas de retour négatif fort sur le projet. Quelques habitants se sont inquiétés, notamment de la vue, et je crois qu'on leur a apporté les réponses qui leur convenaient, si je prends encore en exemple un courrier qu'on a eu hier.
Ouais, parce que c'est assez traditionnel qu'il y ait des petites résistances, des petites interrogations.
Ce qui n'est pas traditionnel déjà, c'est qu'il y ait de la concertation.
Ouais.
Nous, on est parti du principe où nous n'avons rien à cacher. C'est un projet qui implique tout le territoire, bien au-delà des 35 exploitations agricoles concernées. Ça concerne toutes les entreprises. S'il y a de la déprise agricole, si vous n'avez plus d'agriculture, ça devient des ronciers, ça devient des sites qui ne sont pas très très beaux, mais ça vient aussi qu'il n'y a plus de taxes. Donc il y a moins de services, s'il y a moins de services, il y a moins de gens qui sont économiquement impliqués, ça va retomber sur le boucher, le charcutier, le boulanger, le coiffeur, tout. Ça va retomber également sur l'habitat, sur le nombre d'enfants dans les écoles, etc. Donc ça, c'est un projet qui est bien plus large en termes d'impact que les 1400 hectares de la zone de captage des eaux, que la partie qui va être en agrivoltaïque. C'est vraiment implique les deux communautés de communes dans leur ensemble, dans leur capacité à investir, à se réinventer, à se projeter vers l'avenir.
La déprise agricole, tu voulais nous dire quelques mots?
La déprise agricole, c'est quoi? C'est une statistique déjà. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui n'ont pas de repreneurs ou qui font faillite. C'est une réalité qui est liée à plein de problématiques qui sont à la fois mondiales, météorologiques, de prix de marché des aliments ou des productions, et qui amènent à ce que les agriculteurs aient un revenu extrêmement faible, qui n'aient plus les capacités à rembourser leurs investissements industriels, et on voit qu'il y a aujourd'hui moins de surfaces agricoles cultivées qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est une réalité factuelle, hein, et l'agriculture est quand même une des premières activités dans le département des Landes, et il n'était pas question dans cette zone-là qu'il y ait cette déprise agricole et qu'on arrive à des territoires qui n'ont plus de capacité à se projeter vers l'avenir, à faire de nouveaux investissements, à produire de la richesse. Moi, je reste convaincu, et ça c'est il ne doit pas y avoir de différence entre une personne qui habite à Hontanx ou une personne qui habite à Paris. Elle doit avoir les mêmes services publics, elle doit avoir accès aux mêmes choses. Et il n'y a pas de raison de ne pas créer de richesse, justement, sur ces territoires-là qui, justement, peuvent se diluer et se diffuser à tous.
Si on revient, Jean-Marc, à l'association Patave, à la naissance de tout ça, il y a aussi l'idée de la mutualisation qui est rapidement apparue.
Tout à fait. Et c'est une idée qui est en fait totalement concomitante avec la déprise agricole. L'idée, c'est que, bien sûr, les agriculteurs vont avoir un revenu, une compensation à avoir des panneaux solaires et leurs structures au milieu de leurs champs. Cette compensation, comme on l'a dit, on ne va pas impacter les 1400 hectares de la zone de captage des eaux. Non, ça va être qu'une partie. Ce revenu-là, il va être en partie partagé entre tous les agriculteurs. C'est-à-dire que celui qui a les mêmes contraintes avec zéro intrant, mais qui n'a pas de panneau photovoltaïque, va recevoir quand même une compensation. Et ça, j'ai trouvé que c'était une idée magnifique de la part de l'association PATAF de redistribuer une partie des revenus et donc de permettre qu'il n'y ait pas de déprise agricole sur ces territoires-là.
Quelques mots sur la biodiversité autour du projet Terra Boots.
Oui, c'est la clé. C'est la clé parce que souvent on reproche aux énergies renouvelables de s'implanter et de détruire soit de la forêt, soit d'impacter. Or là, dans ce projet Terra Boots, nous allons nous implanter sur des zones agricoles qui sont des zones qui ont eu une agriculture intensive pendant des années. La biodiversité dans un champ de maïs, elle est très très peu présente. Hein. Et nos relevés faune et flore l'ont bien remarqué. Donc nous avons aussi la chance d'être sur une zone de 1400 hectares sur laquelle nous ne retirerons qu'une partie pour l'agrivoltaïsme. Donc on a pu exclure toutes les zones où il y avait une présence, une biodiversité qui était soit forte, soit exceptionnelle par certains cas. Et donc, au contraire, on a pu s'éloigner de ces zones-là et ne pas avoir d'impact. Par contre, il y a une chose aussi intéressante, c'est que on sait déjà par la bibliographie et par l'expérience des centrales au sol que ces zones-là créent à nouveau et redynamisent la biodiversité. Donc, nous allons avoir un bilan extrêmement positif sur la biodiversité, en plus d'avoir un bilan positif sur la qualité de l'eau, vu que l'agriculture n'aura plus d'intrants pendant une très très longue période.
On revient aussi, Jean-Marc, et peut-être même allons-nous évoquer notre aventure, notre amour commun autour de Basketland, sur l'implication dans le territoire de GLHD dans ses actions.
Oui, alors ça c'est aussi une des valeurs, et je pense que ça a été vraiment structurant dans le choix de PATAF de nous confier le développement de l'agrivoltaïsme. Vraiment une des valeurs de GLHD, c'est l'intégration dans le territoire. Une centrale photovoltaïque d'agrivoltaïsme, c'est fait pour durer très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et donc je pense que notre société, elle, doit être aussi présente dans ce territoire pendant cette période au minimum, et donc s'intégrer. Donc ça commence par quoi? Ben ça commence par avoir des bureaux ici. Ça commence également, comme toute société, on a un rôle dans l'extra-entreprise. Donc s'intégrer dans le tissu associatif, que ce soit culturel, sportif et sportif. Comment éviter Basketland? Surtout pour moi, un ancien basketteur. Donc il était hors de question de passer à côté. C'est un réel plaisir de supporter, d'être sponsor de cette équipe, qui en plus va dans le sens des valeurs de l'entreprise, encore une fois, où nous sommes extrêmement attentifs à l'égalité homme-femme, à la parité. Donc c'était pour nous un mariage obligé avec Basketland. Pour moi, c'est, mais je crois que pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ça fait partie, on est issu de ça, le territoire c'est important, la culture c'est important, la solidarité c'est quelque chose qui fait vraiment sens. On ne mène que des projets de ce type-là. Je pense fondamentalement c'est ce qui nous définit et c'est ce qui fait mouche par rapport à nos partenaires que sont les agriculteurs. Enfin, il est hors de question de laisser des territoires en déshérence. Voilà, là, ça, l'agrivoltaïsme est vraiment une solution de permettre cette révolution énergétique, agricole, d'amener de la richesse, de créer de l'emploi. Et puis nous-mêmes, quand on arrive sur un territoire, comme je disais, donc on a nos bureaux, on est partenaire, mais on travaille que avec des entreprises landaises sur ce projet-là. C'est extrêmement important. On a travaillé avec des géomètres qui étaient d'ici, un bureau d'études qui travaille dans les Landes. Voilà, c'est extrêmement important de travailler local et comme l'agriculture qui va en sortir, elle sera pour partie en circuit court. Ben voilà, c'est l'intégration dans le tissu entrepreneurial du département.
Alors on aura l'occasion tout au long de cette aventure et de cette série de rencontrer, comme je le disais en introduction, une grande partie des acteurs de ce projet. J'ai même cru deviner qu'il y avait des produits estampillés agrivoltaïques qui allaient peut-être être proposés dans un avenir à plus ou moins long terme.
Oui, c'est une idée qui a été portée par les agriculteurs de PATAF. C'est une très bonne idée, je trouve. D'ailleurs, ça me permet de dire un petit peu quelle est leur démarche et quelle est la nôtre, vu qu'elle est conjointe sur ce volet agricole. Pour être certain qu'il n'y aurait pas de déprise agricole et que le métier d'agriculteur va rester fondamental et la clé, bien au-delà de la production d'énergie verte. En fait, nous menons des études en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Landes sur la filière amont et la filière aval. Donc, Jeannot, vous avez bien compris, hein, amont, on va voir comment on peut sourcer un moyen de produire. Ensuite, on va avoir la partie exploitation, et là, le pilote va nous conforter sur réapprendre d'autres cultures. C'est pas la même chose de faire du maïs, ou de faire de la fraise, ou de l'asperge. Et derrière, on mène des études sur la filière aval, c'est-à-dire comment, derrière, on récolte, transforme, distribue, à qui, à quel prix, quel est notre taux de rentabilité? Donc, il y a une véritable étude de la part des agriculteurs et de nos partenaires sur les différentes filières que l'on va pouvoir mettre en place. Et donc, l'idée d'une marque, si elle ne s'impose pas encore, en tout cas, elle est assez présente et j'espère bien qu'on aura une marque d'agriculture verte.
Et si on a cette marque, on aura évidemment l'occasion dans ce magazine de la présenter et d'en reparler. Est-ce qu'il y a un calendrier pour l'instant un petit peu sur les dates de la réalisation de tout ça, ou c'est encore un petit peu tôt pour en parler ?
Alors le calendrier, oui, mais il ne dépend pas intégralement de nous. Déjà, la première étape de ce calendrier, c'est la réunion de restitution à nouveau sur le site d'Agroland en virtuel et en présentiel, de la concertation. Donc on va compiler tout ce qui nous a été remonté et apporter l'ensemble des réponses nécessaires dans un format condensé sur 2 heures. Et bien entendu, tous les documents de cette concertation, toutes les questions et toutes les réponses apportées sont disponibles sur le site Terra Arboots. Ensuite, on va nous-mêmes réaliser, en fonction de ces retours, les aménagements sur les permis de construire. On va réaliser toute l'étude d'impact et on va déposer ça dans chacune des mairies. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les mairies qui instruisent ces permis de construire, c'est au niveau départemental, donc la DDTM qui s'en saisit et qui va dispatcher dans tous les services d'instruction, notamment la DREAL, pour que chacun ait un avis à émettre. Là-dedans, il y a une enquête publique aussi, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un enquêteur public qui va être missionné par la DDTM et la préfecture et qui va recueillir l'avis des habitants. Et ensuite, tout ça est compilé, ramené sur le bureau de la DDTM qui émet un avis et la préfète actuelle choisit de accorder ou de refuser le permis ou d'accorder avec des mesures compensatoires ou des conditions. Donc tout ce processus-là va mettre bien 14 à 15 mois encore, sans compter que c'est une année électorale et que certaines tâches ne peuvent pas être exécutées pendant la période électorale.
L'épisode 2 de Terra Arboots, une aventure paysanne, sera l'occasion d'inviter Jean-Michel Lamotte du domaine Marquestour. On ira faire un petit tour du côté de Hontan. Il est un des acteurs de tout ça.
Ah oui, c'est le président de l'association. C'est un des initiateurs de cette innovation agricole. C'est un entrepreneur et aussi bientôt un énergiculteur.
Et puisque en Gascogne, un petit peu comme partout ailleurs dans l'Hexagone, tout se finit quelque part en chanson, qui de mieux que les Nadao, Jean-Marc?
Eh ben oui, c'était le choix obligé pour finir cette émission. Restons landais.
Et puis quelques saveurs, l'espace Ronson Mitterrand avec Bascalane qui nous manque.
Exactement, ces soirées endiablées. Voilà, vivement les playoffs qu'on ne verra que à la télé malheureusement.
Merci Jean-Marc Fabius.
Merci beaucoup Jeannot.
D'avoir lancé aujourd'hui ce nouveau magazine sur Radio MDM. Adichat.
Adichat.
Patapim patapam. Non sei doni sortido. Non ma pas brighe spiate mei pergut su picche la hami e la sete. Patapim patapam. Non sei so chi m'arrivo. E c'è snado pietat che mbalu su cammi che cammino tu dret. Non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, da la vede passaggio che mi chia sito Mattia Larguei. Non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, non hai paschi pensare la notte, lo di e la notte. Io tu stinca vi savi, e dice no, e dice addio. Tamen di caso chi vuoi, vale da un suo postale. la 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 pa la 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 nero pa la 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 nero pa la 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 de la terra do seu tau com la periclado e tutta capirata renunsera me no ya me com avans ni lo red de la neu ni lo verde la prado ni lo canto mai nanni la nado sorei chi e corre l'usans non sei pallo sono un taio che l'ha incantato e se ne pasta uelta domati segui chi la nire e parlare non sei pallo sono un taio che l'ha incantato domati diserei d'incassi chi gli scuzzo che t'ha per incontrare io tu stenca vi e dice no e dice addio io jamais n'avi volu jamais prega o mini Dio aro che i plega lo iui della gleso capaccia da mendica so chi vuoi vale da un soccostare la 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 la
transition écologique énergie solaire agriculture vie de nos territoires. C'était Terre Arboots, une aventure paysanne. Podcast et informations sur le www.radio-mdm.fr.